on revient sur les deux personnages qui se retrouvent, et c'est là un peu l'intrigue, quoi, voilà.
Oui, tout à fait, parce que cet homme, c'était sa grand-mère qui, elle, était une nationaliste allemande convaincue. D'ailleurs, lorsque Jean arrive dans cette ferme allemande, bon, la fermière l'accueille avec sympathie parce qu'elle se rend compte qu'il va savoir travailler, qu'il va savoir faire tourner la ferme. Puis elle constate aussi, et ça lui fait plaisir, que tout de suite il y a un très bon contact avec lui. Par contre, il n'y a pas un bon contact avec un autre qui est de Bellevue-la-Montagne et qui a eu un passé un petit peu difficile avec certaines petites fillettes. Donc, ils vont tous les deux, aussi bien à Saint-Paulien qu'à Bad Ibbenau en Allemagne, se montrer héroïques pour sauver la fille de leur fermière. Parce que cet Antoine, j'ai rien contre les gens de Bellevue-la-Montagne. Parce que cet Antoine, il va s'en prendre à cette fillette. C'est lui qui va intervenir à temps pour la sauver. Et puis en même temps, à Saint-Paulien, un jour où il neige, ils ne peuvent pas aller travailler. Et donc ils restent pour fendre du bois. Et le père de la fermière, qui est déjà un homme très âgé, il veut aller chercher du bois parce que sa fille lui a dit, mais il fait froid, il n'y a plus de bois, il va chercher du bois, et puis il part avec sa petite fille et sa fille, et il fait une mauvaise manipulation dans le bûcher, il y a tout le bûcher qui s'écroule, il s'écroule sur la mère et sur la fille. Alors heureusement, la mère, dans son instinct maternel, elle a mis sa gamine sous elle, donc elle la protège de son corps, et c'est lui qui va les dégager toutes les deux du bûcher, et puis sans rien dire à personne, il comprend tout de suite le drame, il saute sur le cheval, il monte à cru, il traverse Saint-Paulien au galop, parce que la ferme elle est à l'extérieur de Saint-Paulien, et il ne sait pas parler français, et puis il voit l'école primaire de Saint-Paulien avec l'instituteur et les gosses dans la cour, et il se dit, c'est un maître d'école, peut-être qu'il parle allemand. Alors effectivement, il s'adresse à lui en allemand, et puis l'instituteur, effectivement, maîtrisait un petit peu d'allemand, il lui demande l'adresse du médecin de Saint-Paulien, il lui adresse le médecin qui est le médecin de famille, donc de cette femme, arrive aussitôt, et puis elle va être sauvée, et Dominique va être sauvée, parce que c'était Dominique qui était sous les bûches, quoi.
Et alors donc, est-ce que les deux femmes, l'allemande et la française, ont des rapports pendant ces 3 ans que passaient en prisonnière entre aucun.
Non. Elles ont des rapports épistolaires parce qu'elles indiquent les adresses, elles postent les lettres, mais elles ne se connaissent pas. Elles vont se rencontrer, elles vont même pas se rencontrer à la fin d'ailleurs. Si dans cette espèce de grotte, de voûte de cave plus exactement, où elles se sont cachées. Mais en fait, non, elles ne se connaissent pas vraiment. Ce sont leurs enfants qui vont faire connaissance.
Oui, mais je veux dire, elles ont pas de nouvelles pendant tout le temps que...
Non, aucune. Elles ont eu quelques lettres.
Si.
Et c'est par hasard qu'elles vont découvrir que leurs maris sont chez leur homonyme en France et en Allemagne.
Je voudrais revenir sur cet échange épistolaire. Et moi, quand j'ai lu la première lettre, ça m'a beaucoup fait penser à la chanson de Maxime Le Forestier, Les Lettres, où c'est justement, c'est le même cas de figure, c'est une femme qui est restée, c'est la guerre de 14, la femme est restée à la ferme avec le vieux père, et le mari, soldat, donc c'est un échange épistolaire qui m'avait beaucoup intéressée. Et là, dès que j'ai lu la première lettre, j'ai tout de suite pensé à cette chanson, et moi je voulais savoir si tu t'étais imprégné de courrier réel.
Non, je ne connaissais pas cette anecdote de Maxime Le Forestier.
Voilà, ou si tu t'étais peut-être inspiré de ton expérience personnelle, puisque...
Oui, je suis inspiré de mon expérience personnelle parce que je sais que ma grand-mère écrivait à mon grand-père qui était sur le front, et dans la famille les lettres ont joué un rôle considérable. À cette époque on écrivait beaucoup, d'ailleurs moi-même, certains d'entre vous l'ont peut-être lu, j'ai publié en 2003 les lettres que j'écrivais à mes parents lorsque je faisais mon service militaire en Algérie. Lorsque ma mère est morte, ma sœur, parce que dans les familles, lorsque la mère meurt, ce sont les filles qui font l'inventaire de l'armoire maternelle, c'est pas les garçons. Ma sœur a retrouvé dans l'armoire de notre mère toutes les lettres que j'avais écrites à mes parents lorsque j'étais en Algérie. Et donc c'est pas une œuvre littéraire, hein, c'est les lettres d'un garçon de 20 ans à ses parents. Et j'ai décidé de les... Alors bien sûr, je les ai lus, vous imaginez l'émotion, mais c'est pas pour ça que j'ai décidé de les publier. J'ai décidé de les publier pour deux raisons. La première, c'est que j'ai vérifié ce que je subodorais depuis longtemps, c'est que la mémoire humaine n'est pas calibrée pour être fidèle sur une durée de 40 ans. J'ai retrouvé dans ces lettres des tas d'événements que j'avais oubliés, d'autres au contraire, je les avais un petit peu inconsciemment transformés. Et depuis ce temps-là, je suis très dubitatif à l'égard des gens qui écrivent leur mémoire en fin de vie. Ça ne peut pas correspondre, sauf certains hommes, comme par exemple le général de Gaulle, qui tous les soirs notaient sur un cahier ce qu'il avait fait pendant la journée. C'est pour ça que les mémoires du général de Gaulle, outre leur intérêt littéraire, parce que c'était un très grand écrivain, le général de Gaulle, on le connaît pour son rôle de chef d'État, mais c'était un très très grand écrivain, et il n'a pas écrit que ses mémoires, il avait écrit plusieurs ouvrages auparavant, qu'on ferait bien de relire aujourd'hui d'ailleurs. Et en particulier, c'est lui qui a écrit ce fameux traité sur l'armée de métier, le rôle des blindés. Alors l'état-major français, le ministère français de la Défense considérait ça comme nul et non avenu. Par contre, en Allemagne, il y avait un général Guderian qui lui a utilisé cet ouvrage du général de Gaulle pour mettre au point la stratégie des panzers qui ont percé les Ardennes en 40. Voilà. Mais c'est souvent comme ça en France. Il y en a qui ont des bonnes idées, mais personne ne les prend trop. Bon. Et alors donc, la deuxième raison, c'est que je suis de 40. Je fais partie des plus jeunes, ce qui veut dire que dans quelques années, il n'y aura plus personne qui a vécu la guerre d'Algérie pour pouvoir en parler. D'ailleurs, je me souviens très bien qu'en 2012, lorsqu'on a célébré le 50e anniversaire des accords d'Évian, c'est-à-dire le 19 mars 1962, eh bien, dans les médias, que ce soit les radios, les plateaux télé, la presse, pour parler de la guerre d'Algérie, là, nous, les anciens d'Algérie, on en a eu gros sur la patate, on a invité tout le monde, des historiens, des journalistes, des intellos, etc. Mais alors, les anciens d'Algérie, on nous a boycottés. Vraiment, on ne nous a pas donné la parole. Comme parce qu'on avait des choses à dire. Il ne fallait pas qu'on les dise, quoi, voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai publié ces lettres pour... Elles n'ont pas de prétention, mais au moins c'est la réalité des faits que vivait au quotidien un appelé pendant la guerre d'Algérie. Puis bon, j'ai fait 28 mois de guerre d'Algérie, donc j'avais quand même un certain nombre de choses à dire. Et alors donc je les ai publiées, et puis quand j'ai écrit mon roman en 2005, Les Amants de Juin, où il y avait déjà un jeune officier allemand qui était l'un des personnages principaux du roman, Je voulais savoir quelle était la perception des Allemands qui étaient en occupation en France. Alors j'ai la chance d'avoir une de mes nièces qui est agrégée d'allemand, et chaque année elle emmène ses élèves en Allemagne. Et moi je lui ai dit, les jeunes Allemands, ils faisaient comme les jeunes Français, ils écrivaient à leurs parents. Est-ce que tu pourrais... Et puis alors effectivement, bon, en France on connaît les lettres des poilus, etc. Et puis elle a trouvé effectivement un bouquin, c'était un Allemand qui avait fait comme moi, il avait fait publier les lettres qu'il avait retrouvées, qu'il avait adressées à ses parents pendant qu'il était en occupation en France. Voilà. Et donc je me suis dit, il faut témoigner, donc je les ai publiés aux éditions Jeanne d'Arc en 2003, et on n'a pas arrêté depuis de les rééditer, elles sont demandées, oui.
Oui, c'est ce que tu disais, puisque toi, tu avais les lettres, ça reconstituait vraiment ce que tu avais vécu.
Là, il y avait... Pour répondre à la question de Pascal, dans beaucoup de mes romans, d'ailleurs celui que j'écris en ce moment et qui se passe également pendant la guerre de 14-18, dans beaucoup de mes romans, il y a des lettres, parce que je trouve que... c'est aussi important, parce que en ce moment, avec Internet, avec les textos, les SMS et tout, on a tout un pan de la littérature française qui est en train de disparaître, parce que la littérature épistolaire, elle était très très importante dans les... Je parle pas seulement de Madame de Sévigné, c'est le plus connu, mais il y a eu des tas d'auteurs, des tas de gens qui écrivaient beaucoup. Et aujourd'hui, on n'écrit plus. Et d'ailleurs, je pense que ça va poser un problème pour les historiens de l'avenir, parce que les soldats français qui ont été en Afghanistan, parce que ça a commencé à peu près à cette époque, dans les années 90, qui aujourd'hui sont au Mali ou ailleurs, hein, bon, et ben, ils envoient des textos, ils envoient des SMS, ils envoient des emails, mais c'est fini, il n'y a plus de courrier. Et je pense que ce n'est pas seulement le cas des soldats français, c'est le cas des soldats américains. Et alors là, j'en reviens sur une réflexion que je me suis faite longtemps. Nous, les appelés en Algérie, on avait quand même comme souci de ne pas effrayer nos parents. Donc dans nos courriers, on s'auto-censurait. Moi, je me censurais moins parce que mon père avait fait la guerre du Rif dans les années 30, qui était encore une guerre qui laissait présager la guerre d'Indochine, d'Algérie, enfin toute la décolonisation. Et il m'avait dit, c'est pas la peine de me raconter des conneries, je sais très bien ce que c'est, tu me dis la vérité. Alors moi, je disais pas toute la vérité parce que je savais que ma mère lisait les lettres. Mais j'en disais certainement un peu plus que les copains par rapport à ce que m'avait demandé mon père. Et j'ai toujours pensé, pendant la guerre d'Algérie, nous les appelés, on avait 20 ans, on n'avait pas de maturité politique. Aujourd'hui, je crois que ça serait différent. On rassurait nos parents. Je pense que si on avait dit la vérité, l'opinion publique aurait basculé et la guerre se serait terminée plus rapidement. Il ne faut pas oublier que la guerre du Vietnam a été arrêtée parce que les soldats américains écrivaient à leurs parents et ils disaient la vérité. Et l'opinion américaine a basculé. Et ça a obligé le président, je crois que c'était Johnson, oui, à entamer des pourparlers avec le Vietnamien.
Oui, mais on comprend bien que c'est très important, les lettres, c'est ce que disait
c'est pour ça ces mails, ces SMS. Il y a toujours des lettres.
Ouais. Donc Albert Duclos nous parle de des amours prisonnières. Avec nous, on a Monique, Michel, Annie et Chantal. Alors Monique, ce livre, vous nous dites pourquoi vous l'avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé. Michel nous a dit qu'elle trouvait que la deuxième partie était pas assez longue. Vous, qu'est-ce que vous avez...
Moi, j'ai tout aimé.
Vous avez tout aimé?
Oui. Un peu au départ, j'ai eu du mal à me fixer sur la guerre 14-18. Mmh. Mais une fois que ça a été parti, voilà, c'est bon. Je l'ai lu facilement et très bien.
Vous l'avez lu en une traite ou en plusieurs fois?
Plusieurs fois, non. Trois jours.
Oui, mais bon, je sais pas.
Voilà.
Non, mais c'est
trois
pour
fois,
ça.
On va
en trois
dire.
Fois, d'accord.
Oui, oui, oui.
Et vous, Michel?
Moi, je l'ai eu en dernier à le lire, donc j'avais peu de temps.
Oui.
J'en ai lu les trois quarts en une soirée, sinon
il
m'en manquait un bout, donc voilà, j'ai fini après.
Et ça se lisait bien en une soirée?
Oui.
Vous aviez envie d'aller au bout?
Oui, j'avais envie d'aller au bout. Oui, oui, tout à fait.
Alors vous, c'est la deuxième partie que vous avez trouvée trop courte?
Oui, parce que c'est une période qui m'intéresse
plus
beaucoup. Oui, peut-être.
Voilà. D'accord. Voilà, oui, c'est peut-être ça aussi.
Voilà.
Oui, en fait, chaque lectrice...
Oui, il y avait plein de choses. C'était plus concret par rapport au local, je dirais.
D'accord.
Le puits, en fait. Oui. J'avais envie de savoir si le groupe d'eau, par exemple, au niveau historique, si vous êtes appuyé sur des faits réels ou si...
Oui, oui. Je me suis appuyé sur les travaux de M. Morin. Alors, dans la deuxième partie, mais vous l'avez sans doute remarqué toutes, ce que j'ai voulu aussi montrer, j'ai voulu aller à contre-courant, mais je vais toujours à contre-courant sur cette période. On présente toujours les résistants comme des saints et les Allemands comme des salauds. En fait, c'est tout à fait faux. Il y avait aussi bien dans l'armée allemande que dans la résistance française des gens qui étaient des salauds et puis des gens qui étaient des gens braves.
Comme dans la vie.
Voilà, comme dans la vie. Oui, moi, il n'y a pas l'histoire que certains sont blancs, d'autres noirs. C'est faux, il y a des nuances de gris, c'est tout.
Hein, bon.
Alors, ceux qui sont saints, levez le doigt. Bon. Et alors, j'ai voulu montrer cette antinomie entre cet officier allemand qui est un barbare, qui torture, qui fouette à coups de fouet pour faire parler, et puis mon jeune officier qui, lui, au contraire, est un brillant soldat, et qui, parce qu'il est un brillant soldat, respecte ses adversaires, parce qu'il sait ce que c'est que la guerre. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que, on ne l'a pas assez dit, mais, enfin, mon avis, en 1944, ce qui a sali la résistance, c'est la période de l'épuration. Mmh. Et ceux qui ont tondu les femmes, comme on dit, c'était souvent des collaborateurs qui avaient, si vous avez vu le film, la série Le Village Français, on le voit très bien, qui, voyant que les Allemands allaient perdre, avaient retourné leur veste. Et pour être crédibles et acceptés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dénoncé d'anciens collaborateurs. Et c'est eux, les derniers convertis sont toujours les pires, on sait bien, et c'est eux qui ont été vraiment les pires dans la période de l'épuration. Alors que les résistants qui s'étaient vraiment battus contre les Allemands, qui avaient eu des morts, des blessés, n'ont pas participé à l'épuration, parce qu'ils savaient très bien ce que c'était que la guerre. Alors là, j'ai voulu montrer donc cette opposition, et puis je l'avais déjà montré dans d'autres livres, moi c'est une de mes convictions intimes, il n'y a pas d'un côté des gens qui sont des saints, puis de l'autre des salauds, et tout le monde a sa nuance de gris à l'intérieur de lui-même, voilà.
Oui. Déjà la guerre n'est pas belle, donc...
Oui. La seule façon de faire la guerre belle, c'est de ne pas la faire.
Voilà, exactement.
Parce que, par exemple... Dans les romans de chevalerie, oh, les chevaliers du Moyen-Âge, c'était pas ça du tout.
Et moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que bon, ces hommes, qu'ils soient français ou qu'ils soient allemands, ils sont partis soldats, on leur a collé un uniforme, on leur a dit « bon, tu vas te battre », voilà. Et à partir du moment où ils sont prisonniers et où ils arrivent dans ces fermes et où ils quittent cet uniforme, ils redeviennent ce qu'ils ont toujours été, au fond d'eux-mêmes, paysans. Et on s'aperçoit de l'universalité du travail de la terre, puisque malgré la barrière de la langue, ils ont les outils et ils se mettent au travail, on n'a pas besoin de leur faire voir.
Oui, d'ailleurs, ma grand-mère me l'a souvent dit, moi, ce prisonnier, lui, il aurait bien mieux aimé, il n'était pas un fanatique, hein, il aurait bien mieux aimé rester en Allemagne à faire tourner sa ferme. Et j'ai une anecdote personnelle que m'a racontée ma mère. Bon, moi, je m'en souviens plus, puisque à cette époque-là, j'avais même pas un an. J'avais à peu près 6 mois, parce que je suis né en février 40. Et les Allemands ont attaqué en mai 40, et ils ont envahi la France en juin 40. Je suis né à Bourg-en-Bresse. Mais c'est seulement après le traité signé avec le maréchal Pétain que les Allemands ont reflué au nord de la Loire. Mais ils étaient avancés très très bas, pratiquement jusqu'à Lyon. Puis après, ils se sont repliés sur le nord. Et donc, la maison de mes parents était au bord de la route nationale qui va de Bourg-en-Bresse à Lons-le-Saunier, Besançon, Strasbourg, etc. Et donc, les colonnes allemandes descendaient. Et il y avait, pour chaque maison, il y avait toujours un soldat allemand qui rentrait dans la maison pour fouiller, vérifier qu'il n'y avait pas d'armes. Alors, mon père, il venait d'être fait prisonnier. Ma mère était toute seule avec ma sœur, moi-même, et puis ma grand-mère. Et elle m'a dit que ce soldat, il est rentré dans la maison pour fouiller, et moi j'étais dans mon berceau, dans la chambre de ma mère. Et alors, il s'est approché de mon berceau, elle me l'a dit souvent cette anecdote, et ça m'a marqué. Et quand il m'a vu, alors il a mis la main dans sa veste, il a tiré son portefeuille, il a montré la photo d'un bébé, ma mère a compris que c'était son bébé, quoi. Mm-hmm. Et il est parti, voilà. Et la maison n'a pas été fouillée. Donc, il y avait dans l'armée allemande énormément, je dirais même la majorité des soldats, ils auraient bien mieux aimé rester chez eux, quoi. Voilà.
Annie, vous, alors ce livre, vous l'avez lu en une fois, en plusieurs fois ?
En une fois, j'ai bien aimé. Le style est très bien, ça coule, c'est très, très bien écrit.
Ah oui, les gens me disent que j'ai une écriture fluide.
Oui, vous avez... Je sais pas si c'est vrai. Voilà, c'est ça. Moi, ce qui me fait un peu bizarre, c'est d'avoir mis le méchant à Bellevue, la montagne, sur plusieurs générations.
Fallait bien que je le mette quelque part.
Sur plusieurs générations, on sait que...
Ouais, mais je voulais pas le mettre à Saint-Paulien, quand même. Ah, ben non, fallait bien que je le mette quelque part. Oui, je voulais pas non plus le mettre à Chamalières-sur-Loire, puisque j'y habitais pendant 37 ans. Oh, je me suis dit, Bellevue, ça va, c'est loin. Alors, j'aurais pu le mettre à Craponne. Hein, ou à Saint-Germain. Non, Bellevue, j'ai trouvé que c'était bien parce que c'était dans le prolongement de Saint-Paulien,
oui,
un peu
voilà,
plus loin.
C'est, quoi, voilà. C'est une anecdote.
Mais j'ai rien contre Bellevue la montagne.
Et vous, Chantal?
Je pense que si mes livres se vendent mal à Bellevue, vous le saurez pourquoi.
Et vous, Chantal, alors?
Ben, moi, c'est pareil. J'étais la première à le lire. Donc,
et en une traite?
Comme je savais qu'il fallait que je le passe à mes copines, je l'ai lu très vite, mais très facilement parce que l'histoire est belle. Les personnages sont attachants. Et puis bon, ça parle beaucoup de Saint-Paulien, du Puy, on s'y retrouve.
Alors bon, on parle de ce livre d'Albert Duclos, hein, Les Amours prisonnières. Bon, là je vais parler plus aux lectrices, parce que c'est vrai que c'est intéressant, on entend beaucoup de choses, hein, souvent, toujours, puis souvent son contraire. Alors on sait que, j'en ai parlé un peu à Livre Évasion, on a parlé du livre numérique, qui apparemment décolle pas du tout.
Il décolle pour les livres professionnels, techniques.
Peut-être, oui, mais ça c'est autre chose.
Je pense que tout ce qui est professionnel, technique, c'est le numérique qui va tout balayer. Mais par contre, le livre de plaisir... Ah, ouais. Le livre de plaisir, non, c'est le livre papier qui...
Ouais. Alors,